Bonjour à toutes et à tous. À l'invitation d'Alex Balguiou et en ces temps de confinement qui obligent à lire et à réfléchir dans une temporalité qui ne nous appartient pas complètement, j'ai eu envie de proposer quelques miniatures radiophoniques liées à la notion de traduction. Car traduire, c'est toujours obligatoirement se résoudre à l'incomplétude, à l'équivalence sans adéquation, comme l'a écrit Paul Ricoeur. Traduire, c'est toujours se tenir et se savoir dans un espace entre, ni tout à fait là-bas, ni tout à fait ici. Et lire une traduction, c'est se résoudre à la cord tacite qui nous lie à la traductrice ou au traducteur, comme à l'autrice ou auteur. Savoir que ce qu'on lit nous parvient à l'aune de la pensée d'une ou d'un autre, et que, s'il n'est pas tout à fait l'original et ne le sera jamais, il nous laisse croire qu'il pourrait l'être tout en nous faisant oublier qu'il ne l'est pas. Je vais donc tour à tour proposer des textes lus dans une langue qui n'est pas leur langue originelle, des réflexions sur la question de la traduction d'une langue à l'autre, d'une image au texte, du texte à la parole, du rêve à l'écrit, ainsi que des textes traduits pour l'occasion de l'anglais et au français puisque c'est ma limite. Je commence aujourd'hui par un texte de l'artiste et cinéaste Deborah Stratman, dont le film Optimism est actuellement visible sur la plateforme Tenk, www.tenk.fr. J'ai traduit ce texte pour le numéro 2 de la revue de cinéma Les Saisons, une part discrète du film, revue créée en 2018 par Pauline Rigal et Baptiste Jopek, afin d'offrir un rare espace de parole via l'écriture en donnant à lire des textes de cinéastes. www.revuelessaisonstoutattachées.com. Voici le texte tel qu'imprimé au fil des pages 12 à 14. Deborah Stratman en parle comme de rumination liée au tournage d'Optimism et à l'installation d'un projet sculptural à Dawson City, à la confluence du Yukon et du Klondike, terre d'une ruée vers l'or sans précédent au XIXe siècle. Le texte s'intitule « The Shit of the Sun ». Dans la tradition maya, on faisait parfois référence à l'or comme étant la merde du soleil. AU, symbole de l'élément chimique or. Augéré, augmenté. Augère, la foreuse, lame hélicoïdale, outil dont la partie hélicoïdale perce des trous. Augure, deviner, prédire une bonne ou une mauvaise destinée. Lire dans l'avenir, augurer. Auguri, signe de ce qui va se produire dans le futur, un présage. Observation du ciel et des oiseaux. Prédiction d'après le vol des oiseaux. Sorcellerie, du latin, augurue. A-U-S, briller. Austère, le vent. Le vent du sud. Auspex, celle ou celui qui observe les trajectoires des oiseaux pour émettre des présages. Auspice, divination ou signe prophétique. Osus, l'aube. Aurora, déesse romaine de l'aube. Aurora, aurore. Phénomène électrique naturel défini par l'apparition de traînées de lumière rouge ou verte dans le ciel, généralement à l'approche des pôles magnétiques nord et sud. Aura, atmosphère particulière ou qualité qui semble entourer et être générée par une personne, une chose ou un lieu. Auréole, cercle de lumière ou intensité lumineuse qui entoure quelque chose, représenté plus particulièrement en art au-dessus de la tête ou autour du corps d'un sujet considéré comme sacré. Oral, qui a trait à l'oreille ou à l'ouïe. Aurique, a trait à l'aura, censé entourer une créature vivante, et d'or, à valence de trois. Aurum, or, latin. Auréate, doré, qui indique et fait de ou à la couleur de l'or. Auriferous, orifère, qui contient de l'or. Corbeau vole le soleil. Corbeau vole le jour et la lune et tout le reste. Le monde était plongé dans l'obscurité tout le temps. Un homme gardait pour lui seul la lune, les étoiles et le soleil. La fille de cet homme alla à la rivière pour boire de l'eau. Corbeau se transforma en une aiguille de pin que la fille avala par mégarde. 9 mois plus tard, elle mit au monde un enfant. L'homme était fou de son petit enfant. L'enfant pleura et supplia de jouer avec le soleil. L'homme finit par céder et donna le soleil à son petit enfant pour qu'il puisse jouer avec. Il le fit rouler sur lui-même, joua avec lui, rit et s'amusa beaucoup. Puis il fit rouler le soleil vers la porte jusqu'à le faire sortir. « Oh !» s'écria-t-il en feignant la surprise. Pleura d'avoir perdu le soleil. « Donnez-moi la lune pour m'amuser !» Au départ, ils dirent non, mais finirent par la lui donner. L'un après l'autre, ils lui donnèrent le soleil, la lune, les étoiles, la lumière diurne. Il les perdit tous. « Où a-t-elle attrapé cet enfant ? Il perd tout, » dit le père. Puis Corbeau disparut, transporta des choses avec lui dans une boîte, se promena, atteignit la rivière. De nombreux animaux étaient là, renards, loups, louves, visons, lapins. Tout le monde pêchait. Cette fois, tous les animaux parlèrent comme parlent les gens d'aujourd'hui. Le monde était sombre. « Donnez-moi du poisson, » dit Corbeau. Personne ne s'en préoccupa. « Donnez-moi du poisson ou j'apporte la lumière du jour. » Ils se moquèrent de lui. Il tenait une boîte, l'entrouvrit pour en laisser sortir un rayon. C'est alors qu'ils s'intéressèrent à lui. Il ouvrit un peu plus la boîte. Ils prirent peur. Il finit par casser la boîte à lumière et la jeter. Les animaux se dispersèrent, se cachèrent dans un buisson ou se transformèrent en animaux, comme maintenant. C'est alors que le soleil, la lune, les étoiles et la lumière diurne apparurent. « Allez vers les cieux, » dit le corbeau. « À présent, plus aucun humain ne possédera la lumière. Elle sera pour tout le monde. » L'ode de l'or enfermé dans les veinures du quartz, alluvial, alluvion, dépôt détaché du quartz déplacé par l'action de l'eau. Placère, gisement alluvial, dépôt de terre, de sable ou de gravier, plus spécifiquement dans une crique ou le lit d'une rivière contenant des minéraux précieux. Overburden, végétation, terre, gravier, ce qui n'a pas de valeur. 1986, la découverte d'or dans la crique du Lapin, ou crique Bonanza, déclencha la plus grande ruée vers l'or de l'histoire de l'Amérique du Nord. L'histoire serait très différente sans les guerres et invasions, dont le but primaire était de prendre le pouvoir en possédant l'or. Ce bébé commence à grandir vite. Le soleil, la lune, les étoiles et la lumière du jour sont tous suspendus dans la maison du père de cette fille. Lui seul les possède. Le monde est plongé dans l'obscurité tout le temps. L'enfant supplie de jouer avec eux. Le père finit par donner le soleil à son petit enfant pour qu'il puisse s'amuser. Il le fait rouler sur lui-même. Joue avec, rit, s'amuse beaucoup. Puis il le fait rouler vers la porte jusqu'à ce qu'il sorte. « Oh !» s'écrie-t-il en feignant la surprise. Et pleure parce qu'il a perdu le soleil. « Donnez-moi la lune pour m'amuser. » Au départ, il refuse. Comme si là, le bébé te demandait le soleil et la lune, toi tu dirais « Ils sont le feu de ton grand-père. » Ils finissent par lui donner la lune. L'un après l'autre, ils lui donnent le soleil, la lune, les étoiles, la lumière diurne. Il les perd tous. « D'où a-t-elle attrapé cet enfant ? Il perd tout, » dit le père. Puis Corbeau disparaît. transporte des choses avec lui dans une boîte, se promène, atteint la rivière. De nombreux animaux sont là, renards, loups, louves, visons, lapins. Tout le monde pêche. Cette fois, tous les animaux parlent comme parlent les gens d'aujourd'hui. Le monde est sombre. Donnez-moi du poisson, dit Corbeau. Personne ne s'en préoccupe. Donnez-moi du poisson ou j'apporte la lumière du jour. Il se moque de lui. Il tient une boîte, l'entrouvre pour laisser sortir un rayon. Alors il s'intéresse à lui. Il ouvre un peu plus la boîte. Ils prennent peur. Il finit par la casser et la jeter. Les animaux se dispersent, se cachent dans un buisson ou se transforment en animaux, comme maintenant. C'est alors que le soleil, la lune, les étoiles et la lumière diurne apparaissent. « Allez vers les cieux, dit le corbeau. Plus aucun humain ne possède la lumière, elle sera pour tout le monde. » Après avoir conçu le monde, Corbeau voit que le lion de mer possède la seule île qui existe. Tout le reste est eau. Il est le seul à posséder de la terre. Partout autour, un océan. Corbeau se repose sur un morceau de bûche. Il est fatigué. Il voit le lion de mer avec cette petite île pour lui tout seul. Lui aussi veut de la terre. Alors il vole l'enfant du lion de mer. « Rends-moi cet enfant, dit le lion de mer. Donne-moi de la plage, du sable, dit Corbeau. » Alors le lion de mer lui donna du sable. « Voyez-vous comme le sable flotte dans l'eau ?» Corbeau lança ce sable autour de l'océan. « Sois le monde, lui dit-il. » Et il devint le monde. Bonjour à toutes et à tous. Pour continuer la série d'ici, je vais vous lire aujourd'hui deux textes. L'un qui s'intitule « Chemin faisant » sur, d'après, avec, autour d'eux et pour « Traduire ou perdre pied » de Corinna Gepner aux éditions La Contre-Allée, publié il y a quelques mois, et un extrait du livre de Corinna Gepner « Traduire ou perdre pied », un livre fragmentaire et magnifique sur ce que la traduction fait à l'auteur. Donc je vais commencer par lire « Chemin faisant » et lirai ensuite les extraits de « Traduire ou perdre pied ». J'ai prêté le livre à une amie, donc je ne l'ai pas avec moi et je vous lirai des pages scannées. « Chemin faisant » est un texte qui n'a pas encore été publié et ne le sera peut-être jamais. Commence par une citation de Gilles Deleuze et Claire Parnet dans leur livre commun Dialogue, publié en 1977. Non pas parler comme un Irlandais ou un Roumain dans une autre langue que la sienne, mais au contraire parler dans sa langue à soi comme un étranger. La rencontre avec certains textes donne parfois le sentiment d'être fortuite. À l'inverse, d'autres nous attendaient là, quelque part, depuis toujours, semble-t-il, depuis bien avant qu'ils n'aient été écrits. Et c'est l'effet produit par « Traduire ou perdre pied » de Corinna Gepner, publié en 2019 dans la collection « La Contrebande » des éditions lilloises « La Contre-Allée », une collection entièrement dédiée aux écrits de traductrices et traducteurs dont les voix sont, par définition, toujours plus ou moins tues. Une photographie ouvre l'ouvrage, image noire et blanc sur laquelle rien n'est dit. Bulles de savon envolées dans les airs, vue aérienne pré-bombardement, nuages au-dessus d'une campagne anonyme, amas de poussière photographiés en plongée. Impossible de saisir ce qui y est figuré et l'image n'a pas non plus de légende. Peut-être la comprendrons-nous plus tard, ailleurs. Sobrement composé de fragments aux longueurs variables, forme rare et pourtant si juste, Le texte distille son contenu au fil de pages où le blanc, celui du fond comme celui des marges, a lui aussi toute sa place, nous donne à lire entre les lignes, confronte notre regard au vide, laisse notre pensée s'échapper. La distance de vision fait tout. Au fur et à mesure que se tournent les pages, chaque fragment révèle, avec une intensité et une humilité qui vous serrent la gorge, non seulement ce qui ne cesse de préoccuper Corinna Gepner lorsqu'elle traduit, mais aussi, et cela y est intimement lié, pourquoi traduire est, dans son cas, une manière d'accepter de taire un passé pour mieux le faire renaître. Une des impasses, peut-être, faire dire par d'autres ce que j'aurais eu à dire sur le passé familial. Ce faisant, je n'attrape que de l'air. Traduire, en l'occurrence, n'est que prolonger une forme de silence. N'attraper que de l'air, mais de l'air volé. Ainsi qu'Ossip Mandelstam définit extraordinairement la poésie comme acte de résistance, qu'elle soit en russe, en yiddish, en allemand, en français. Et ce n'est pas un hasard si la première traduction confiée à Corinna Gepner fut celle d'un recueil de textes de Kafka. D'emblée, la traduction, un point de rencontre entre l'allemand et la judéité. Denn wir sind wie Baustäme im Schnee. Quant à prolonger une forme de silence, à nous d'interroger sa prégnance, sa vastitude, voire sa définition. Car pourquoi traduire, c'est-à-dire donner à lire à celles et ceux qui, autrement, ne comprendraient pas ce qui fut écrit dans une langue qui leur est étrangère, pourquoi traduire prolongerait-il le silence plus qu'écrire ne le fait? D'ailleurs, traduire n'est-ce pas écrire? Écrire n'est-ce pas dire? Dire, n'est-ce pas parler? En écrivant « Traduire ou perdre pied », la traductrice germaniste élevée en France nous fait entendre, malgré le profond silence qu'elle évoque et convoque avec virtuosité, sa voix unique, celle qui d'ordinaire se tait derrière chaque mot, phrase, page, traduit, écrit par d'autres en premier lieu et en d'autres temps. J'aimerais pouvoir quitter passé, présent, futur pour parler de présence. Écrire, c'est se rendre présent au présent de l'écriture, s'engager corps et âme dans une aventure au cours indéfini dont on ne sait d'ailleurs jamais trop jusqu'où elle vous conduira, sans avoir peur des détours ou impasses, ni de ne jamais parvenir tout à fait à destination. Traduire, c'est également s'embarquer dans une aventure dont on sait qu'elle est, dès le départ, une fausse piste. C'est cheminer en compagnie d'un texte, de l'esprit de son auteur, son corps parfois. Se laisser guider à l'intérieur du contexte historico-culturel qui le sous-tend, et de tout ce qui ne demande qu'à y être deviné. L'achèvement d'une traduction, si tant est que cela soit possible, n'est qu'une étape du chemin parcouru, jamais une destination. Et qu'importe, elle ne figurerait sur aucune carte. Je repense à ces cours d'eau qui serpentent dans les estampes japonaises. C'est à peu près ça. Lire, enfin, puisque c'est bien ce à quoi poèmes, romans, essais, mythes nous engagent, quelle que soit leur langue, lire signifie être mis en présence d'une entité dont chaque traduction démultiplie la force de vie. Or, c'est toute l'ambivalence de la traduction. Pour donner vie, il faut se résoudre à générer une forme de perte et savoir l'entreprise d'emblée vouée à l'échec, sans pour autant jamais y renoncer. Lire, traduire ou perdre pied? C'est tenter de comprendre jusqu'à quel point marcher dans les pas d'une ou d'un autre finit par vous transformer, c'est accepter la discrète invitation de Corinna Gebner. Nous approcher au plus près de ce qui est écrit sans lui faire d'ombre. Nous immiscer quelque part où l'on ne serait pas à vue et faire émerger une lumière nouvelle. Comme cette lumière des étoiles mortes. Traduire ou perdre pied, de Corinna Gebner. Adolescente, j'ai découvert Dostoïevski avec passion. Ma première rencontre avec lui a été Crime et Châtiment. Un jour que j'avais oublié mon exemplaire, j'ai profité d'une pause pour aller au centre de documentation du collège emprunter celui qui s'y trouvait. Je n'ai pas reconnu le texte. La déception a été si forte que je n'ai pas pu poursuivre. Je ne retrouvais plus rien de ce que j'aimais. J'avais affaire à une œuvre qui m'était fondamentalement étrangère, lointaine, hermétique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai repris ma lecture sans me poser de questions. Par une soirée extrêmement chaude du début de juillet, un homme sortit de la toute petite chambre qu'il louait dans la ruelle S. Et se dirigea d'un pas indécis et lent vers le pont K. Il eut la chance de ne pas rencontrer sa propriétaire dans l'escalier. Sa mansarde se trouvait sous le toit d'une grande maison à 5 étages et ressemblait plutôt à un placard qu'à une pièce. Traduction D. Ergaz, Gallimard. Au début de juillet, par une chaleur torride, un jeune homme sortit à la fin de la journée de la chambre qu'il occupait dans la ruelle S et lentement, d'un air indécis, se dirigea vers le pont K. Sa chambre se trouvait sous les combles d'une haute maison de 5 étages et ressemblait davantage à un placard qu'à un logis. Dans l'escalier, il avait réussi à éviter une rencontre avec sa logeuse. Traduction E. Gertick, le livre de poche. Au début du mois de juillet, par une chaleur torride, le soir venu, un jeune homme quitta le cagibi qu'il soulouait ruelle S, sortit sur le trottoir et lentement, comme pris d'indécision, se dirigea vers le pont K. Il évita sans encombre de croiser sa logeuse dans l'escalier. Son cagibi se trouvait juste sous le toit d'un haut immeuble de 4 étages et tenait plus d'une armoire que d'un logement. Traduction, André Markovitch, Acte Sud. Je ne sais pas ce que je lis. Le texte qu'il y a là, derrière, m'échappe totalement. Je ne le connais pas et le connaîtrai sans doute jamais. Qu'y a-t-il d'ailleurs là derrière? Pas la peine d'en passer par l'étranger d'une autre langue. Telles qu'elles m'apparaissent, les différentes traductions françaises de ce début de Crime et Châtiment me sont autant de langues étrangères. Tout en m'offrant le texte, elles me le rendent inconnaissable. Et pour une raison que j'ignore, cela me procure une joie sans limite. Je repense aux circonstances dans lesquelles j'ai commencé à traduire. Sans intention précise au départ, mais le désir assez vague de quitter le commentaire du texte, mes activités universitaires, pour me rapprocher. C'est par ma mère que la traduction est venue. Ma famille maternelle, Prusse orientale, Poméranie, Berlin, où l'on s'installe bien avant la guerre, la première. C'est ma mère qui m'a mis entre les mains des textes qu'elle aimait pour que je les traduise en français. Elle n'en avait évidemment pas besoin et la probabilité d'une publication était faible. C'était donc autre chose. Bonjour à toutes et à tous. Pour la troisième contribution de la série que j'ai intitulée D'ici, une série de lectures de confinement pour la radio innommable, je vais vous lire un extrait du livre de Ljuba Jorgensen, Au lieu du péril, sorti chez Verdier en 2014. Yuba Jorgensen est née à Moscou en 1958. Elle est d'origine estonienne. Elle est arrivée en France en 1975 et elle est aujourd'hui écrivaine, maître de conférences à la Sorbonne en littérature russe et spécialiste des camps. Elle est traductrice, elle est chercheuse et elle a écrit ce livre, un livre assez fou, sur le fait d'être entre deux langues en permanence, de passer constamment du français au russe et du russe au français, d'avoir les deux dans sa tête et dans son corps. Donc l'extrait que je vais vous lire s'intitule « Acte de naissance », il est aux pages 45 et 46. Il est une question qu'on me pose souvent. Le français est-il pour moi une langue acquise? Certainement pas. Le parlait-on dans ma famille? Non plus. Je l'ai bel et bien appris autrefois, et aujourd'hui c'est ma langue. Elle m'habite non comme un hôte, mais en maître, consubstantiel. Je l'ai « naturalisée », entre guillemets. La langue est une sorte de machine à remonter le temps. Elle nous façonne rétrospectivement. Un jour, la langue française m'a fait don d'elle-même. La langue maternelle, au départ, c'est une provenance. De. Toutes les autres sont des directions. Vers. Puis, vient un moment où elle devient aussi un vers. C'est peut-être pour cette raison qu'aujourd'hui je peux écrire en russe seulement des vers. Le français n'est pas ma langue maternelle et pourtant c'est ma langue natale, celle de la seconde naissance. Naissance de moi en elle, d'elle en moi. Et puisqu'il faut délivrer un acte de naissance, quelle date choisir ? 1966, l'année où débute l'apprentissage dans une école française de Moscou. 1975, date de mon arrivée en France. 1977, où la décision est prise d'en faire ma langue d'écriture. Rien de tout cela, à en croire un texte datant de 1990, écrit entre deux langues, où je parle du français comme d'une langue étrangère. Extrême étonnement à la relecture aujourd'hui. Était-ce bien moi ? Tout concorde donc. Le nouvel état civil linguistique est daté de 1991, l'année où mon pays natal, l'URSS, disparaît de la carte. Émerge alors un pays qui s'appelle Russie, où l'on parle ma langue maternelle, le russe. Ce n'est pas ce pays que j'ai fui, mais un autre, qui n'existe plus. À partir de 1991, ma langue russe n'est plus l'attestation de cette fuite. À partir de 1991, ma langue russe n'est plus l'attestation de cette fuite, l'estampille d'une apatrie radicale et définitive, à peine le signe d'une extériorité. Elle ne me distingue plus des touristes qui se précipitent en masse pour visiter l'étranger, jusque-là interdit, ni des nouveaux migrants qui fuient les étalages vides des magasins en voie de privatisation. Elle n'a plus aucune couleur, ni saveur, ni odeur politique, elle est devenue purement géographique. Jusque-là, je pouvais dire « je suis russe », ce qui voulait dire « je ne suis pas soviétique ». Cela signifiait « j'appartiens à l'émigration », à cette enclave russe en France qui représente sans doute la population la plus anti-soviétique de la planète. Une sacrée carte d'identité alors, mon russe doublé de mon français d'émigré. Identité disparue en un clin d'œil. Plus d'émigration. Il y a seulement des Français d'origine russe ou des Russes vivant à l'étranger. Et il y a la Russie, où je peux désormais me rendre comme je veux pour écouter le bruissement des mots de ma langue maternelle et me souvenir de leur naissance en moi, repoussée vers une antériorité infranchissable. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle lecture d'ici, de mon bureau avec une fenêtre sur un cerisier qui perd ses pétales en plein Paris. Je vais vous lire un extrait, disons une moitié d'un texte que j'ai commencé à traduire dès que le confinement a commencé. Je ne savais pas bien comment commencer à écrire pour moi-même, alors du coup j'ai décidé de traduire. Et c'est le premier texte qui me soit tombé entre les mains. C'est un texte de la photographe Zoé Léonard, photographe américaine extraordinaire, qui écrit assez peu. Et j'ai trouvé ce texte dans le numéro 100 du magazine October, un numéro sur l'obsolescence. Alors je vais vous lire deux des chapitres de ce texte, qui n'est pas vraiment réparti en chapitres, mais plutôt en courtes parties, qui ne sont pas vraiment des fragments non plus. Et la semaine prochaine, je lirai les deux dernières parties. Donc le texte s'appelle Out of Time, hors du temps. Un de mes amis vit au bord du fleuve Yukon. Il a longtemps vécu avec sa famille, sa femme et leurs deux enfants, dans un endroit isolé à environ 90 miles du village le plus proche. Ils ont construit une maison en bois dans la forêt, au bord du lac, et les deux enfants ont grandi là. Ils pêchaient et chassaient et jardinaient. Il n'y avait ni électricité ni plomberie. La plupart des choses qu'ils possédaient étaient fabriquées à la main. Ils avaient des toilettes extérieures et se chauffaient au bois. Quand les enfants ont eu 7 et 9 ans, ou à peu près, ils sont allés pour la première fois à Fairbanks. Ils ont logé chez un ami. C'était la première fois que les garçons voyaient un système de plomberie intérieure. Quand le plus petit est allé aux toilettes, il a été dégoûté. Il ne pouvait tout simplement pas croire qu'on puisse aller aux toilettes à l'intérieur de sa propre maison. Il me semble que l'obsolescence est moins une question de temps que de contexte, de ce qui fait sens dans une circonstance donnée. Notre manière de faire les choses ou de les fabriquer sont le reflet de la direction plus vaste que prend notre société. En général, on nous vante les nouvelles technologies comme l'incarnation du progrès. Et l'attachement aux choses anciennes est souvent perçu comme régressif, nostalgique ou sentimental. Mais le progrès est toujours un échange. On gagne quelque chose, on perd autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est de prêter attention à une partie de ce que l'on perd. Il y a environ 3 ans, j'ai commencé à prendre en photo les façades des boutiques dans mon quartier. J'ai grandi à New York, tout près de Harlem, dans mon enfance, et ai déménagé dans le Lower East Side à l'âge de 16 ans en 1977. J'ai vécu dans une sorte de beauté que je n'avais jamais vraiment vue comme telle. Les marchands de fruits séchés, de noix, les fabricants d'oreillers, les cornichons de Gus. Le mélange de différentes langues, les épiceries portoricaines avec leurs panneaux écrits à la main et leurs produits tropicaux. Le panneau en métal grinçant avec ses peintures délavées de costumes d'hommes sur Arcade Street. Les magasins de corsets, la densité visuelle de ces rues. Je les adorais. Mais tout cela était tellement proche que je ne me souciais pas de le penser en termes de beauté, ni de le photographier. Il y a quelques années, le mouvement de gentrification rampante s'est accéléré, et tandis qu'il se propageait au sud de Houston, les magasins ont commencé à fermer, les fabricants d'oreillers, de quilts, les bodegas, le boucher, le magasin de lino. De nouvelles boutiques ont ouvert, des boutiques de vêtements, un antiquaire, un coiffeur, de nombreux bars. C'est seulement au fur et à mesure de leur disparition que j'ai compris à quel point je comptais sur ces vieilles boutiques, que cette beauté multiple, usée et décalée sous-tendait ma propre vie. Je m'y sentais chez moi, là où j'ai grandi, au coin de Claremont et de La Salle. Il y avait une boutique de réparation de machines à écrire et un blanchisseur chinois en bas. Au coin, un marchand d'alcool avec un comptoir et plus tard un épais mur de plexiglas et un tiroir pour y glisser votre monnaie. J'aimais la manière dont mon quartier manquerait dans le monde, avec des traces évidentes du passé, de qui et quand et comment, avec le langage. L'espagnol se superposant à l'hébreu, Chinatown débordant petit à petit. Et avec d'autres types de langues, un vernaculaire urbain, les panneaux dans les vitrines. Nous acceptons les tickets repas, acceptamos WIC, les monts de piété, les bureaux de change. une boutique proposant immigration, divorce, traduction. Les magasins de mariage sur Clinton Street, les restaurants de produits laitiers, le vieux restaurant cachère sur Essex Street. L'omniprésence du lotoman. Plus un quartier était pauvre, plus on le voyait. J'aimais la manière dont tout cela était tellement présent visuellement. Je me sentais située au milieu d'une mosaïque de générations d'immigrants, d'une certaine manière centrée dans l'histoire. Et j'adorais l'humour, la personnalité. Meats, meats, meats fresh every day. Serve yourself and save. Fancy pharmacy. Hard to get items. J'ai commencé à réaliser que tout ça me manquerait. Alors j'ai commencé à prendre des photos. Je voulais une trace enregistrée. Il y a quelque chose de plus à ce charme désuet ou nostalgie. C'est un sentiment de connexion au reste du monde, au langage et à l'économie, à l'histoire et à la lutte, à l'infinité de solutions humaines pour remédier aux problèmes de la survie. Quelques semaines après avoir commencé ces photos, j'ai fait un voyage en France, puis en Espagne et au Maroc. En voyageant, je n'arrêtais pas de penser pourquoi une pochette d'allumettes d'ici ne ressemble-t-elle pas à celle de là-bas? Pourquoi aime-t-on ces allumettes d'ailleurs, ces sachets de sucre? Comme des souvenirs, c'est ça, pour nous rappeler nos voyages, nos vacances. Mais il y a autre chose. Chaque détail d'un restaurant à l'étranger raconte toute une histoire. Le sel est en gros cristaux et gris, récolté à la main sur une île du Nord. Les bougies sont molles et se consument vite. Le miel est cristallisé. Quelle est l'histoire d'une boîte d'allumettes? Qui récolte le soufre dans les mines? D'où vient le bois, ou la cire, ou le papier? Qui imprime l'emballage, assemble les boîtes? Pourquoi les écharpes de bois ou le sulfure tombent-ils dans certains pays? Il faut 6 allumettes pour avoir du feu. Je me suis dit, c'est ça. Si je photographiais chaque produit présent dans le monde, chaque objet que nous avons extrait, raffiné, manufacturé, chaque produit acheté et vendu, les photos contiendraient notre histoire, le type de société que nous sommes devenus. Tout serait révélé là. Les alliances politiques et les accords de marché, les histoires d'esclavage et d'ateliers clandestins, les histoires de plantations de caoutchouc et de sucre, de café, de tabac, de coton, l'histoire sans fin de la progression humaine depuis les économies de subsistance jusqu'au capitalisme. De la chasse et la cueillette à Kmart ou Target. De l'isolation à l'échange, de l'impérialisme au colonialisme, à la globalisation. Je me souviens m'être dit, ça va être un projet sacrément difficile. Photographier chaque chose du monde, sel et huile et bois et diamants, charbon et briques et citron vert et poutre en acier, patates et oranges, savon et vêtements et sacs à main. Tout ce que l'on extrait ou cultive ou ramasse, tout ce que l'on récolte ou emballe ou coud ou assemble. Bonjour à toutes et à tous. Voici la deuxième partie de la traduction du texte « Out of Time » de la photographe américaine Zoe Leonard, qui a été publié pour le numéro 100 du magazine October. Merci à Alex d'avoir voulu continuer d'ici. Ainsi, la lecture de ce texte continue et continuera la semaine prochaine. Lorsque je suis rentrée de ce voyage, j'ai vu une connexion. J'ai commencé à voir que le langage urbain que j'avais essayé de capter, cette histoire de ma propre ville, contenait les clés de ce que je voulais enregistrer à travers le monde. J'ai commencé à voir New York comme une sorte de point d'appui ou de plaque tournante. Tous ces biens et langues et argent transitent par ici. Mon propre quartier déborde des signes d'une économie locale remplacée par une économie globale. Des petits commerces remplacés par de grandes entreprises, les multinationales prenant le dessus. Plus je regarde avec attention, plus je réalise qu'en observant l'intérieur de ces vitrines, je regarde aussi vers le reste du monde, vers la République dominicaine et la Chine et la Pologne. Je vois la preuve de la spécificité des gens, leur écriture manuscrite, leurs mains, la manière dont ils agencent leurs vitrines, mais aussi des accords d'échange, des conditions de travail, des réalités culturelles et économiques d'autres endroits. Nous sommes connectés via le café et le thon, le sucre et les cigarettes. Ces photographies examinent les restes d'autres époques, suggèrent d'autres manières de vivre. Les boutiques de réparation de machines à écrire, les squats sur Bowery, les panneaux peints à la main de Mandel Tobacco & Co. sur la 12e rue, cochons de lait vendus ici sur la 125e Ouest, à deux pas de McDonald's, Starbucks, Walmart. Je me souviens à quel point enfant j'avais été excitée d'apprendre le mot anachronisme. Je trouvais incroyable qu'un objet puisse être en dehors de son époque, qu'il puisse contenir en lui une autre ère. Ces images parlent donc de lieu et de temps. Elles sont des images d'ici et maintenant, mais aussi des images de là-bas, à ce moment-là. Elles traversent les lieux et le temps. Je me suis intéressée à la manière dont les enseignes des marques américaines sont présentes dans d'autres pays, et de quelle manière d'autres pays sont présents ici. Un store Coca-Cola à Meknès, au Maroc, à la Havane, des pneus Bridgestone, des cigarettes Marlboro, des pellicules Kodak. S'il est illégal pour des citoyens américains d'y dépenser de l'argent, pourquoi est-il légal pour eux d'en faire? Sur un marché à Jérusalem-Est, un mur ancien en calcaire d'où pendent des sacs à main et des sacs Bugs Bunny, Calvin Klein. Une table jonchée d'une montagne de chaussures. Nyx, Fila, PHILA, Adidas, arnaque de logo mal orthographié. En marchant dans la rue à Trinidad, Cuba, nous sommes tombés sur 4 ou 5 brouettes. Sur l'une d'elles, un grand oreiller rose. Sur l'oreiller, une télévision massive. Pourquoi la télévision se trouve-t-elle dans la brouette? Je réalise que nous sommes devant un magasin de réparation de télévision. Les télévisions doivent y être amenées et ramenées de cette manière. Il y a quelque chose d'asynchrone ici. Un endroit où il y a la télévision, mais pas de camion de livraison. Il y a l'électricité à Trinidad, des routes, mais la circulation est limitée à la vieille ville. Pour citer ce guide, son statut de site patrimonial mondial de l'UNESCO a garanti que sa merveilleuse architecture reste authentique. Perfection des rues pavées et piétonnes du centre de Trinidad, de son mélange de demeures coloniales. La désignation protège l'architecture de l'époque coloniale, mais rend aussi Trinidad tributaire du tourisme, ce qui est effectivement le cas. Du même guide, une des principales attractions touristiques, Trinidad attire plus de touristes que la plupart des grandes villes cubaines. Donc la télévision était peut-être dans la brouette à cause de l'appellation site patrimonial mondial, ou tout simplement parce que son propriétaire n'avait pas les moyens de se payer une voiture ou une camionnette. Ou peut-être est-ce la solution la plus rapide, la plus facile pour se déplacer dans une petite ville animée. De la même manière qu'à Manhattan, se déplacer à vélo est plus rapide qu'en voiture. Je ne suis pas restée assez longtemps à Cuba pour connaître les réponses, mais j'ai pu voir qu'il y avait une histoire longue et compliquée, qui implique Castro et les États-Unis et l'ex-URSS. Les systèmes philosophiques et économiques, les dirigeants corporate et politiques, loin de là, mettent tous les télévisions dans des brouettes. Vous ne pouvez pas voir tout cela dans la photo, mais elle vous donne des indices. Vous savez que vous êtes à l'endroit où les choses sont portées à réparer, et que les choses sont réparées dans des endroits où il est moins cher de les désosser et les remettre à neuf que d'en acheter de nouvelles. Les endroits où les choses sont d'occasion, réutilisées, adaptées, puis démantelées pour les pièces détachées, un usage définitif du métal, des vis, des câbles, du verre. Des endroits où les gens ont le temps et le travail est sous-payé. Ou des endroits où les frais de port sont chers et les usines et les marchandises sont très loin. Alors à New York, vous jetez votre télévision, à Trinidad, vous la réparez. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire la troisième et dernière partie du texte Out of Time de la photographe américaine Zoe Leonard. Donc ce texte a été publié dans le numéro 100 de la revue October. Et cette lecture pour d'ici sera sans doute la dernière, peut-être pas la dernière des dernières, mais en tout cas la dernière du confinement. Et j'espère qu'à partir de lundi, quelque chose d'une vie normale reprendra le dessus, mais une vie changée par ce confinement auquel on a toutes et tous beaucoup réfléchi. Je m'intéresse aux traditions de Jane Adjaye et de Walker Evans, leur tradition d'archiviste. Ils avaient tous les deux un sacré œil pour les signes de la main humaine, un amour et un respect pour les différentes voix des individus anonymes. Chacun avait un point de vue spécifique sur sa propre époque, une parfaite compréhension de la valeur de leur œuvre dans l'histoire. Les photographies d'Adjet offrent un registre de Paris, mais elles documentent aussi le passage d'un monde fait à la main à un âge de la reproduction mécanique. Je pense qu'il avait saisi que quelque chose d'irrévocable se produisait à son époque, pendant sa fin de siècle. Ces archives nous offrent une vue sur un monde aujourd'hui complètement transformé. Nous sommes aujourd'hui témoins d'un moment si particulier de l'histoire, la fin de l'âge mécanique, le début de l'ère digitale. Je pense que c'est un moment unique pour documenter et un moment important à archiver. Je continue à travailler avec un vieux Rolleiflex. J'aime le fait que l'appareil photo soit un reste de l'ère mécanique. J'aime utiliser cet outil, regarder un nouveau monde à travers un objectif ancien. Je m'intéresse tout autant aux traditions de nature morte de la peinture flamande et hollandaise, dans l'idée qu'un regroupement d'objets puisse être un portrait ou une allégorie, que là où le propriétaire puisse être décrite ou décrit à travers ses objets, que l'assemblage de ses possessions révèle sa classe, son métier, ses centres d'intérêt, son éducation, ses croyances religieuses, son statut ou sa place dans le monde. Et que les objets puissent être arrangés symboliquement pour raconter une histoire de la fragilité de la vie, des qualités temporaires de l'existence. Dans les deux traditions, l'archive et la nature morte, les objets et les lieux sont utilisés pour raconter les histoires de leurs propriétaires et habitants. Ce type d'archéologie est un fil conducteur de mon travail. Je m'intéresse à ce que nous créons et à ce que nous abandonnons. Je veux voir les preuves et les signes, les défauts et la beauté. Je crois que le monde ne ressemblera plus jamais à ça et je ressens le besoin d'y regarder de plus près, de le garder à portée de main. Sur un marché à Varsovie, des marchandises étalées sur des couvertures. Un vieux réveil et des radios, des crucifixes et des magazines porno, des poupées, des peluches, des lunettes de soleil, des marteaux, des roues. Sur un petit carré de plastique bleu pâle, deux paires de chaussures marron. Une avec des lacets, une sans, l'empreinte du propriétaire d'origine enfoncée dans la semelle intérieure. Nos cultures sont certainement enregistrées par l'entremise des médias déterminés et conscients d'eux-mêmes que sont la littérature et l'art. Mais de nombreux récits et histoires sont simplement racontés par des pots et des casseroles, des manches de hache et des canapés-lits, des perles de verre, des antennes satellites et des gobelets de polystyrène. J'ai vécu sur Stanton Street, au coin de Ludlow, pendant 22 ans. C'était un vieil immeuble en briques. Mon appartement avait 5 pièces et beaucoup de portes entre les pièces et des fenêtres et des traverses et des systèmes de ventilation pour emprunter lumière et air. À peu près à hauteur des yeux, il y avait sur chaque encadrement de porte la marque en relief d'une mezouza. Les mezouzas avaient disparu, démontées et amenées dans d'autres maisons il y a des années. Mais des décennies de couches de peinture successives avaient laissé une trace visible et inclinée sur chaque embrasure de porte. C'est une histoire du marché immobilier new-yorkais. C'était un appartement à loyer modéré. Quand j'ai déménagé, mon propriétaire a prévu une rénovation de fond en comble. Une amélioration capitale pour pouvoir augmenter le loyer, déréglementer l'appartement. La baignoire de la salle de bain serait retirée, murs et portes détruits et remplacés. Le matin qui a suivi mon déménagement, j'y suis retournée et photographiée chaque encadrement de porte.